Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Alors, on va faire les exercices. Hein? Non, je blague. Hein? Ça m'est arrivé il y a quelques années de cela. J'avais des amis qui venaient des États-Unis qui arrivaient à Nice. Et ils allaient visiter un peu toute l'Europe. Ils avaient des différentes venues déjà planifiées. Et ils allaient rester quelques jours avec nous. Donc, je suis allé pour les chercher. Et comme le temps était court, je proposais que le jour même qu'on visite la ville de Nice. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà visité la ville. Il y a une grande colline sur laquelle se trouve un château tout en haut. Et à partir de là, on peut voir une vue magnifique sur toute la baie des Anges. On voit toute la ville de Nice. C'est joli, mais pour y arriver, il y a deux choix. Ou on peut monter 400 marches, où on peut aller par derrière et prendre sa voiture et garer la voiture en haut. Et comme Nice, les parkings sont et chers et rares, j'ai décidé de garer la voiture là-haut. Et qu'on allait descendre les 400 marches et visiter la ville et puis remonter à la fin de la soirée. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à la fin de notre visite, c'était après 19h. Et après 19h, ils ont ils ferment les portails en bas. Alors, notre voiture était là-haut et donc on a vu que même les marches, les 400 marches, étaient fermées. Il y avait un portail qui était fermé à clé. On a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un a dit, mais il y a une autre voie par là et il faut monter par là. Donc, on est parti de l'autre côté, c'était fermé à clé aussi, cadenassé. On a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On a appelé les gendarmes. Et il y avait déjà un homme qui avait sa voiture là devant le portail. Il était dans le même cas. Et il a essayé d'avoir les gendarmes. Finalement, on a eu quelqu'un. Ils ont dit, on va venir, mais il faut que vous soyez prêts. Alors, nous, on était en bas. On a dit, ah, cet homme, il va sortir. Le policier, le gendarme va penser que c'est la seule voiture. Il va refermer. Donc, on a commencé à courir. On a couru jusqu'en haut. 400 marches, mais on était en train de courir. À peu près, je ne sais même pas si c'était 100 marches, je commençais à sentir que mes poumons allaient exploser. Mon cœur était en train de battre, et ça, j'étais sûr, je sentais le feu dans les poumons. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. Mes jambes ont pris un poids de 4 fois ou 10 fois leur poids normal, et juste de pouvoir remonter. Par le temps que nous étions arrivés, on était complètement morts. Je me suis rendu compte que je n'étais pas en forme. Rapidement. Dans une situation comme ça, quelqu'un aurait dû me prévenir qu'on allait avoir cette expérience. J'aurais pu m'entraîner depuis des semaines. J'aurais pu courir chaque jour. Mais je n'avais pas préavis. Et la vie spirituelle est comme cela aussi. Des fois, nous avons les épreuves qui arrivent qui ne sont pas prévues. Il y a les appels au milieu de la nuit. Vous avez déjà reçu un appel au milieu de la nuit? D'habitude, ce n'est pas les bons appels. C'est des appels qui souvent vont bouleverser, non pas simplement la nuit, mais parfois la journée, les mois qui suivent, parfois votre vie entière. Il y a des situations qui arrivent qu'on ne peut pas prévenir. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'être en forme. De ne pas être en forme physiquement, mais spirituellement. Et la piété se trouve dans la prière. L'exercice de la prière. Comment faire face aux épreuves si nous ne nous entraînons pas d'abord? Et c'est dans la prière que nous commençons. Si vous regardez le texte de ce matin, la première chose qu'on voit, c'est que la prière est une priorité. La prière est une priorité. C'est ce que Paul dit avant toute chose. Combien de choses tentent à prendre la place principale dans nos vies? Réfléchissez un petit peu. C'est peut-être le travail, les loisirs, la famille, le sport, les jeux vidéo, le ménage, Facebook, toutes ces choses prennent une place et veut prendre davantage de jour en jour la première place dans notre vie. Le Seigneur nous dit qu'il y a une chose qui est prioritaire, la prière, avant toute chose. Vous connaissez l'histoire, mais je vous invite à regarder Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, Marie et Marthe, on connaît l'histoire, n'est-ce pas? Marie est assise au pied de, devant les pieds de Jésus. Marthe, elle travaille furieusement dans la cuisine en train de préparer je ne sais pas quoi, mais ce qui était pour elle absolument nécessaire. Et Marthe commence à se fâcher. Marthe dit que ce n'est pas juste. Et dans le verset chapitre 10, verset 40, elle décide qu'elle va aller voir Jésus pour dévoiler ce problème. Elle dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Ça, c'est une femme de prière. Parce qu'elle a prié. Elle a parlé à Jésus. Elle a dit, il y a un problème, Jésus. Il faut que tu règles ça. Marie n'est pas en train de m'aider. Moi, je suis en train de faire tout le travail. Et elle est juste là, assise. Et Jésus dit quelque chose qui est très important dans ce verset 41. Le Seigneur lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Et on va lire ensemble cette phrase. « Une seule chose est nécessaire. » Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. « Une seule chose est nécessaire. » Vous l'avez lu, mais est-ce qu'on a vraiment saisi qu'il y a une seule chose qui est nécessaire, c'est d'être au pied de Jésus. L'étude de la Bible est importante, c'est très important. Je ne veux nullement dénigrer l'importance de la Bible. Mais est-ce que quand on est en train de lire la Bible, on est réellement au pied de Jésus? Parce que la prière est ce moment où si on est en train d'étudier, on est en train de lire la Bible, qu'on écoute. Vous voyez la différence? On peut lire la Bible et on peut écouter Jésus qui parle à travers la Bible. Il y a une différence. C'est les moments d'échange dans la prière qui sont importants, dans la présence de Dieu qui est nécessaire. Il y a quelques mois de cela, le Seigneur m'a impressionné de cette importance de la prière. Quand j'ai commencé à étudier Actes chapitre 6, dans ce passage, c'est les besoins de l'Église qui sont en croissance. Vous connaissez bien, peut-être sûr, bien sûr, le Actes chapitre 6, c'est là où les diacres sont institués. Mais on voit que les besoins de l'Église s'accroissent et les apôtres se trouvent tiraillés entre servir les tables ou d'étudier la parole de Dieu et prier. Et le Seigneur donne la solution et il introduit les diacres pour soulager les apôtres. Mais Pierre répond, et cette phrase retentit et continue de retentir dans mon cœur. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et puis, il donne la solution dans le verset 3. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et enfin, le verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Pour moi, quand j'ai lu cette phrase et quand le Seigneur m'a parlé, c'était évident que il n'y a que deux priorités dans le ministère. La parole et la prière. Alors, j'avais déjà pris au sérieux l'importance du ministère de la parole. Pour moi, ce n'était pas un problème, ou du moins je crois. Mais la prière occupait très peu de place dans mon agenda. Et j'ai commencé à réfléchir, à réorganiser mon temps. J'ai décidé que priorité numéro un au bureau maintenant allait être prier. Prendre le temps pour prier. Et c'est ce qui doit occuper une grande partie de notre temps. C'est ce qui doit être en premier. Ces versets ne me quittent pas. La prière est une priorité. Si ce n'est pas une priorité, il faut que ça soit une priorité parce que dans le plan de Dieu, c'est une priorité. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons choisir si nous voulons prier. Ce n'est pas comme une option ou c'est quelque chose qu'on met sur le gâteau, un petit peu de crème de plus. Ça fait partie du repas principal. Mais la prière, deuxièmement, c'est une activité. Paul dit « faire les prières ». Je vous exhorte à faire les prières. Et vous dites peut-être que c'est assez évident, mais la prière est ce que nous devons faire. Ce n'est pas suffisant de parler de la prière, d'écouter des sermons sur la prière, ou même d'étudier les passages de la parole de Dieu sur la prière. Tout ça, c'est admirable, mais avant tout, il faut prier, tout simplement. Quelqu'un a dit, les grands chrétiens de la terre sont les personnes de prière. Je ne parle pas de ceux qui parlent de la prière, ni de ceux qui peuvent expliquer la prière. Je parle de ceux qui prennent le temps pour prier. Ils n'ont pas de temps libre. Ils le prennent en détriment de quelque chose d'autre. Ces choses sont importantes, très importantes, parfois urgentes, mais cependant moins importantes et moins urgentes que la prière. Je vous pose la question ce matin, est-ce que vous priez? Je ne parle pas de temps en temps ou quelques fois par jour, mais est-ce que vous avez un temps de prière? Un temps où vous désignez que ça, c'est juste moi et Dieu. Je prie maintenant. Je vous demande, est-ce que c'est quelque chose qui est une priorité? Est-ce que la prière est une chose que vous faites? Quand vous faites quelque chose, vous faites une... Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai une mémoire qui est comme l'emmental avec des grands trous. Voilà. Ça passe, ça entre et ça... Patricia, elle peut te dire, hein, j'ai déjà oublié mon shampoing ce week-end, et voilà, heureusement qu'elle en avait. Mais j'oublie les choses, donc quand quelqu'un me dit « on va faire ça », aussitôt je vais taper sur le calendrier de Windows. Voilà, envoie-moi un petit rappel 45 minutes, une heure avant, ou voilà, comme ça je me rappelle. Mais la prière, est-ce que c'est dans l'agenda? Est-ce qu'on a prévu un temps, voilà, je vais prier ce matin. Je vais, quand on va au plage, on va marquer samedi matin, on va au plage. Voilà. Si on va faire du footing, là j'ai prévu cette heure, c'est pour le footing. Est-ce qu'on fait autant pour la prière? C'est une activité qui va demander de l'effort. Mais il faut le faire. Ce n'est pas une option. C'est d'ailleurs, et c'est ce qui nous mène à notre troisième point, c'est un appel. Ça fait partie de notre appel. La prière est notre responsabilité en tant que croyant. Apocalypse chapitre 1, verset 6, vous le connaissez, peut-être vous l'avez chanté. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, et puis qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour son Père. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce que ça veut dire? Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur était celui qui était entre Dieu et le pécheur. Quand les hommes voulaient s'approcher de Dieu, il fallait qu'ils passent par le sacrificateur. Ce n'était pas possible de venir faire un sacrifice à Dieu sans le sacrificateur. C'était celui qui était entre les deux et il d'une certaine manière intercéder. Vous et moi, nous sommes les sacrificateurs du Nouveau Testament. Nous tous. Nous avons ce privilège d'intervenir dans la prière pour les hommes, les femmes, les enfants, toutes les personnes qui sont autour de nous. Nous pouvons intercéder pour, vous dites pour qui? Paul dit dans le, je crois que c'est dans le verset 4, si on revient à notre texte dans 2 Timothée, pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Alors vous dites, ça c'est une grande tâche. Il y a 7 millions, combien de personnes sur la terre? Comment est-ce qu'on peut prier pour tous les hommes? Je ne vous donne pas un plan ce matin pour prier pour tous les hommes. Mais je vous signale qu'il n'y a personne pour qui on ne peut pas prier. Il n'y a personne pour qui on ne peut pas prier. Si la commande est de prier pour tous les hommes, nous pouvons être sûrs qu'on ne se trompe jamais si on prie pour quelqu'un. On ne peut jamais avoir tort de prier pour qui que ce soit. Alors, dans ton entourage, tu as une connaissance, tu as un contact, tu vois quelqu'un à la poste, est-ce que tu vois quelqu'un peut-être au magasin, à la caisse que tu vois souvent? Prie pour cette personne. Tu es l'intercesseur, tu es le médiateur que Dieu a mis pour prier pour cette personne. Tu es la personne que Dieu a mis pour être le contact. Peut-être vous n'aurez jamais ou peut-être très peu d'occasion pour même passer un mot, mais vous pouvez prier pour leur salut et que Dieu vous donne une occasion pour la suite. Tu as une liste de prières? Est-ce que vous prenez le temps pour simplement noter les personnes pour qui vous priez? C'est bête, hein? Mais c'est tout simple. Une liste change la manière que nous prions. Récemment, j'ai commencé avec un système et je ne le quitte pas. Vous pouvez prendre simplement un petit cahier de 50 pages, marquer numéro 1 sur une page, 2 jusqu'à 31. Ensuite, vous prenez une autre section et vous marquez 1 jusqu'à 7. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis, une autre page, c'est juste pour les sujets de chaque jour. Aujourd'hui, on est le 29. Vous pouvez prier pour les personnes qui sont sur votre liste pour le 29. Ça veut dire qu'au moins, chaque mois, vous pouvez prier pour 30 personnes différentes, au moins une fois par mois. Mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus importantes. Il faut prier pour eux chaque semaine. Donc, vous choisissez un jour dans la semaine. Le lundi, je vais prier pour telle personne. Le mardi, je prie pour une autre. Chaque semaine, vous priez pour cette personne. Vous prierez Dieu pour cette personne 4 fois dans le mois. Mais il y a des personnes pour qui il faut prier chaque jour. Là, vous les mettez sur la page de chaque jour. J'ai fait une estimation parce que ce n'est pas pour vanter, mais je sais qu'avec le système que j'ai actuellement, je dois prier pas moins de 500 personnes par mois. Et ça, ce n'est pas le monde entier. On doit prier pour tous les hommes. Mais c'est beaucoup plus que j'ai été en train de prier avant. Il y a beaucoup de personnes pour qui je prie, pour qui, de temps en temps, « Oh oui, ben, bénis cette personne. » Mais maintenant, je prie régulièrement pour ces personnes. Et ce n'est pas peut-être le système le meilleur. Peut-être il y a d'autres systèmes. Mais pour moi, ça marche et je trouve qu'il y a une autre chose qui permet pour moi de faire de ces manières de faire, c'est de mettre chaque jour une autre qualité de la personne de Dieu. La louange, c'est de mettre un autre point de vue notre focus sur la personne de Dieu. Commencez chaque jour simplement avec une qualité. Seigneur, merci pour ta fidélité aujourd'hui. Je te loue pour ta fidélité parce que tu es fidèle. On n'est pas consumé. Parce que tu es fidèle, tes promesses sont bonnes aujourd'hui. Ça fait partie simplement de quelque chose et chaque jour, vous verrez qu'il y a plus de 30 différentes qualités de Dieu que vous pouvez trouver. Prenez le temps de prier. Mais la prière, en quatrième lieu, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Quand nous prions, quand nous intercédons, le verset 3 nous dit « Cela est bon et agréable devant Dieu ». Dieu se plaît à voir ses enfants dans la prière. Vous pouvez toujours avoir la confiance que quand vous priez, vous êtes en train de faire exactement ce que Dieu veut que tu fasses, que vous fassiez. Quand vous êtes dans la prière, quand vous êtes en moment de communion avec lui, en train de prier, vous pouvez être sûr que ça, c'est ce qui plaît à Dieu. Je crois qu'il n'y a personne dans cette salle qui ne veut pas entendre à la fin de notre carrière, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que nous voulons tous entendre. Mais si on prend le temps pour prier, c'est sûr qu'on est sur la bonne voie. Parce que le Seigneur veut que nous prions. Savoir ce qui plaît à Dieu, c'est tout ce qui compte. Je ne sais pas pour vous, mais juste de savoir que ce que je fais et ce que le Seigneur veut que je fasse, ça vaut tout, même si je n'ai pas les réponses que j'aurais souhaité. Et je vous dis qu'il y a presque chaque jour ou chaque semaine que quelqu'un me dit quelque chose et je me souviens que j'ai prié pour cette personne. Vous dites, parce que vous avez prié, cette personne a eu ça. Alors, je ne peux pas dire que je suis le moyen ou la source. Je dis simplement que je me réjouis parce que j'ai eu une part dans leur victoire. Et vous aussi. Chaque fois quand vous priez pour quelqu'un, vous participez dans la victoire d'un autre. Mais il y a encore un autre aspect de la prière et c'est cet aspect qui est un peu plus difficile pour nous. Et c'est le cinquième point que je relève ce matin, c'est que la prière est un combat. En Colossiens chapitre 4, verset 12, Paul écrit de ce combat dans la prière. Il parle d'Épaphras. Il dit « Épaphras qui est des vôtres vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Paul lui-même dit en Colossiens chapitre 2, verset 1, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. » Paul et parfois, ça avait compris quelque chose, que la prière, c'est un combat. C'est un combat qui est mené à genoux. Dites, mais c'est quoi ce combat? Ben, d'abord, Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous dit que c'est un combat contre un ennemi spirituel. Nous combattant contre non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous avez peut-être entendu parler de ce jeu Call of Duty. Les jeunes dans la salle, je suis sûr que je viens de les réveiller. Ils commencent à s'assoupir, mais voilà, je les ai touchés. Call of Duty s'appelle littéralement en français, ça veut dire l'appel du devoir. C'est un jeu de guerre, voilà. Je ne vais pas entrer dans les détails. Simplement, je vous dis qu'il y a un appel du devoir, et ça, c'est le combat spirituel que nous avons à mener dans la prière. Combattre demande des armes puissantes. Il faut avoir la bonne. Et Paul nous assure en 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Nous renversons les forteresses. Nous avons un combat contre les forteresses spirituelles. C'est par la prière que Dieu renverse les forteresses. Vous avez une forteresse dans votre vie? Il se peut que l'ennemi ait établi une petite forteresse chez vous. Quelque chose, une mauvaise habitude, peut-être c'est des mauvaises pensées, un manque de foi, la crainte. C'est des forteresses qui peuvent se construire petit à petit dans nos vies. Vous savez, les armes spirituelles avec lesquelles nous pouvons les faire écouler, c'est la prière. Vous pouvez prier et demander au Seigneur de faire descendre, écouler ces forteresses. Est-ce que tu as un ami qui est un esclave de son péché, qui n'arrive pas à s'en sortir? Il a besoin de la libération. Tu sais peut-être pas sans savoir, c'est pas exactement comme l'aider à s'en sortir. Mais le Seigneur peut descendre cette forteresse aussi dans sa vie. Il peut faire écrouler ça petit à petit, simplement parce que vous priez. Vous pouvez descendre les forteresses spirituelles. Vous avez une force spirituelle ce matin qui est redoutable. Toute la puissance du ciel, et écoutez cette phrase parce que je crois que ça résume vraiment la prière. Toute la puissance du ciel en haut est prête à intervenir pour renverser ces forteresses dès le cri d'un enfant de Dieu dans la prière. Imaginez toute la force créatrice de Dieu qui a créé l'univers, qui est là à ta disposition si tu cries vers lui. Ça, c'est la force du combat de la prière. On a cette merveilleuse promesse en Hébreux chapitre 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Cette phrase « pour être secouru dans nos besoins » traduit une pensée qui est encore plus forte. C'est l'idée d'un secours qui vient au moment exactement là où il faut. On dit l'aide qui tombe à pic. Ça, c'est la promesse de Hébreux chapitre 4, verset 16. Vous vous approchez du trône de la grâce et vous allez trouver de l'aide qui tombe à pic, juste au moment où il faut. Mais c'est aussi pour une œuvre spirituelle. Je ne sais pas si vous avez déjà songé à l'idée que vous pouvez changer le cours de l'histoire. Est-ce que vous avez déjà pensé que par vos prières, par tes prières à toi, tu peux changer littéralement le cours de l'histoire? La prière, c'est ce que nous faut. Agir, c'est bien. Prier, c'est mieux. Agir avec la prière, c'est le mieux de tout. Nous perdons beaucoup d'énergie à tenter de faire la volonté de Dieu sans la puissance de Dieu. Et la prière, c'est le moyen de bouger les montagnes et d'assurer la victoire. Je crois que souvent, on s'attend qu'on est étonné quand on a une réponse à la prière. Et je vous assure que ça me fait toujours joie d'entendre quelque chose quand je dis « Ah, j'ai prié pour ça. » Ah, ça fait joie. Ça fait une grande joie, mais parfois, on est surpris. puis-je vous lancer un défi d'être plutôt surpris quand il n'y a pas une réponse à la prière? D'être surpris quand les montagnes ne bougent pas? Parfois, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur ne bouge pas certaines choses dans la vie de certaines personnes pour qui je prie. Je pense à certaines personnes qui ont vraiment besoin d'une guérison, mais Dieu ne veut pas. Pour l'instant, ça ne vient pas, et pourtant, je continue de prier. Et pourtant, c'est dans les mains de Dieu, et je prie. Je suis étonné qu'il n'a pas agi jusqu'à là, parce qu'il a promis qu'il allait agir. Mais j'attends, et je prie. Dans un délai spirituel aussi, hein. Et c'est dans ce point qui est critique. Le temps de prier, c'est sûr dans la bataille, mais c'est surtout avant la bataille. Les victoires qui sont gagnées à genoux bien avant le combat. Jésus donne cette leçon sur ce point dans sa prière dans le jardin de Gethsémané. Il est à peine quelques heures avant le combat de toute l'éternité, quand le sort des âmes perdues sera décidé une fois pour toutes. Il est dans le jardin et il est en train de prier. On pourrait dire que c'est le moment critique de toute l'histoire de l'humanité, de toute l'éternité. Et avant que la bataille commence, Jésus est en train de gagner la bataille dans le jardin. Il est en train de prier. Luc chapitre 22, verset 44 nous dit que le combat était si intense que Jésus était en agonie. Son agonie était si forte, il était à un point d'intensité où sa sueur devenait comme des grumeaux de sang qui tombait à terre. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux dit qu'il présentait avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. C'était un combat que seul Jésus pouvait soutenir. Mais il est l'exemple pour nous de prier, de combattre dans la prière. Je ne peux pas dire que j'ai déjà vécu un tel combat. Mais Jésus l'a fait et il est notre exemple. Mais il y a un temps qui est trop tard pour prier. Vous savez? Vous saviez qu'il y a parfois, c'est plus le moment pour prier? Dans cette même situation où Jésus était en train de répandre son âme devant son Père, en train de supplier que Dieu enlève cette coupe et tout à la fois en train de se soumettre à cette coupe, ses disciples, qui n'étaient pas loin, étaient en train de dormir. Et Jésus dit en Matthieu chapitre 26, 41, il revient et il le réveille et il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il va revenir une deuxième fois et ils sont en train de s'assoupir de nous. Supplier de nouveau dans ces moments difficiles. La troisième fois, il dit ceci. Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Ce n'est plus le temps pour prier maintenant. Voici l'heure est proche. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre et s'approche. Ce n'était plus le temps pour prier. C'était dommage, mais ils avaient raté leur occasion de saisir une grande victoire. Jésus était sur la croix et il a vaincu jusqu'au bout. Mais il a gagné la victoire dans le jardin. Les disciples n'avaient pas gagné cette victoire et ils fuyaient dans tous les sens. Ils se cachaient. Ils avaient raté l'occasion qui était devant eux. Le combat est gagné par les prudents. Enfin, la conclusion, simplement, c'est la prière est un exercice pour nous. il faut absolument prendre ça comme une priorité de prier, de prendre ça comme une priorité nécessaire. C'est pas quelque chose que si j'ai le temps, non, je vais prendre le temps. Et de décider qu'il y a trop de monde qui ont besoin de nos prières pour ne pas prier. Il y a trop de gens autour de nous qui ont vraiment besoin que nous prions pour eux. Et de ne pas le faire, c'est coupable. Mais c'est pour que ce matin, vous ne connaissez même pas la prière parce que vous ne connaissez pas Jésus. Je sais que dans un groupe comme ici, la plupart ici connaissent le Seigneur, mais je ne peux pas éviter de remarquer que dans ce passage, Paul a dit que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Il n'y a personne qui n'est pas désiré dans le royaume de Dieu. Et le verset que Paul nous dit ici dans le verset 5, verset 4, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Vous savez, autant que nous les chrétiens, nous pouvons prier pour vous, nous ne pouvons pas vous sauver. On peut prier pour les âmes perdues, mais nous ne pouvons pas sauver. Il y a un seul qui peut le faire. Un seul médiateur qui est capable de présenter votre cas réellement devant Dieu et vous purifier de tout péché. C'est Jésus. Et c'est lui qui s'est donné lui-même en rançon pour vous. Ça, c'est le témoignage qui est rendu par Jésus. Pour nous, chrétiens, prenez à cœur vraiment de prier. C'est notre priorité. Et c'est pour vous ce matin qui n'avez pas peut-être mis votre foi en Christ, qui, voilà, négligez ça. Prenez la priorité d'accepter Jésus ce matin. Ne pas tarder. Il est là pour vous accueillir. Prions.